Bonjour à tous, c'est un épisode hyper particulier parce que c'est l'épisode 100 aujourd'hui. Et pour cet épisode, j'ai proposé à Mai Ua, qui est déjà morte de rire, de venir avec moi parce que elle a fait un épisode sur Vlan qui a énormément bien marché. Je me suis dit que ce serait une parfaite compagne pour cet épisode 100. Et on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, qui est la masculinité. Donc, on va parler de masculinité toxique, on va parler d'éducation, on va parler de patriarcat, de sexualité, de paternité, de vulnérabilité, de tous ces sujets-là,
oh, wow.
qui me semblent assez intéressants. Donc, c'est parti. Allez, Vlan, c'est parti.
Carrément.
Ah ouais.
Carrément.
Carrément.
Eh ben.
Eh ben, on est pas mal. Alors, la première question que je me pose, et qui peut sembler un peu étrange, c'est, t'es une femme.
Ouais.
A priori, hein, je me trompe pas trop.
Ouais, ouais. Je suis une femme.
Comment ça se fait que toi, t'aies fait un documentaire qui s'appelle Remarkable Men, des hommes remarquables, et que tu t'intéresses à la masculinité?
Alors.
Et aux hommes.
Et aux hommes, ouais. C'est vrai que c'est deux choses différentes. Mais mon chéri, il est thérapeute. Et depuis 25 ans, il a des groupes d'hommes, des groupes de parole d'hommes, des groupes de thérapie. Et en fait, ces groupes se réunissent toutes les deux semaines. Donc il a quatre groupes qui se réunissent toutes les deux semaines. Et avec donc des hommes qui viennent, pour certains, depuis plus de 20 ans, parler d'eux-mêmes, de leurs problèmes, de leur cheminement, de leur peine. Et en fait, après une retraite qu'on a faite au Népal l'année dernière, je lui disais, mais il faut absolument que tu les filmes, en fait, ces hommes. Moi, j'adorerais, je suis une femme, mais j'adorerais être une petite souris pour savoir comment se passent ces cercles d'hommes. Et il a commencé à les filmer, face caméra. Et puis, au moment où il fallait en faire un film, il était bloqué. Il n'arrivait pas à transformer le projet. Et donc, il a fait appel à moi parce qu'il s'est dit, j'ai besoin d'une artiste dans laquelle j'ai confiance. Et donc, voilà, on se connaît bien. on se connaît pas mal. Il m'a beaucoup aidé sur mon premier documentaire qui est Les Rivières et qui était un documentaire sur des femmes, des femmes de ma famille. On arrive aussi dans une ère post-MeToo où en fait on doit repenser le genre et on doit revivre différemment nos féminités, nos masculinités. Et en fait, l'une des premières clé, c'est qu'elles sont plurielles et que la masculinité, en fait, c'est pas juste les hommes, c'est toute la société, en fait, est masculine aujourd'hui, ou en tout cas, elle est labellée comme telle. Et donc, en fait, c'est un sujet qui appartient à tout le monde, beaucoup plus que la féminité, où justement, les femmes ont été très silenciées. Et le féminisme aujourd'hui est très associé à une prise de parole des femmes pour elles-mêmes. La masculinité, c'est différent.
Ouais, ça serait compliqué qu'un homme parle de féminisme, je pense.
Aujourd'hui, moi, je vois mon privilège. Je suis une femme et je peux parler de masculinité, ça pose aucun problème. Un homme aujourd'hui parler de féminité, c'est un petit peu compliqué. Mais je pense que au-delà de ça, le film, ce qui m'a appris, c'est qu'en fait, c'est comme les femmes. On dit pas les femmes, mais des femmes. Bah, les hommes, c'est pareil, en fait. Et là, c'est pas un film sur les hommes, c'est un film sur ces hommes-là et sur des hommes qui ont une parole. Vraiment magique, dans laquelle moi j'ai appris beaucoup de choses en tant que femme et en tant qu'être humain. Et je pense qu'au final, ce qu'il faut qu'on recrée là maintenant, c'est une masculinité qui n'est pas du tout antinomique avec humanité. Et ce film, en fait, là on a commencé à le montrer, et ce qu'il en ressort, c'est que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois trans, que tu sois jeune, que tu sois vieux. Enfin, la première fois qu'on l'a montré, la salle était tellement hétérogène, c'était incroyable. Il y avait des queers, il y avait des poètes, des vétérans de guerre, des journalistes. Enfin, c'était hyper hétérogène. Tout le monde a compris le propos, qui est un propos hyper humain. Mais c'est de créer une expérience humaine dans laquelle les hommes se reconnaissent.
Et du coup, tu fais le distinguo, et c'est un truc qui m'est cher, entre masculinité et homme. Mmh. Tu peux expliquer peut-être la différence? Parce que pour moi, il y a un vrai truc entre aussi féminité et femme, ou féminisme et femme. Enfin bref, il y a tout ce truc-là.
Alors, mais j'ai un sujet qui m'est cher sur les femmes, qui est, voilà, il y a une différence entre féminité, féminisme, femme, féminin. Il y a tout un panel de vocabulaire, mais du coup d'expérience derrière le vocabulaire et derrière les mots qu'on doit réexplorer et réinventer et qu'il faut se réapproprier. Et en fait, pour les hommes, ça va être pareil. En fait, on peut être une femme masculine, on peut être un homme féminin. Et donc, je pense que l'ère post-MeToo nous fait entrevoir un panorama incroyablement riche d'identités qui se font et qui se défont en plus, donc de manière dynamique. Et donc sur tous ces terrains-là, en fait, on invite chacun à cheminer sur ces terrains-là.
Et d'ailleurs, pour moi, le combat, il n'est pas trop entre hommes et femmes, mais plutôt sur un équilibre entre masculinité et féminité dans chacun, finalement.
Oui, bien sûr. Alors déjà, il y a pas de guerre homme-femme. C'est-à-dire que...
En tout cas
le féminisme n'est absolument pas une compétition entre hommes et femmes. Ça s'est lu de cette manière-là. Je lisais un Science et Vie, un truc, tu vois, où il disait, voilà, l'arrivée des femmes dans la place publique crée une compétition. Non, mais c'est hallucinant de dire une chose pareille. C'est vraiment... essentialiser nos relations sur le thème de la compétition, et on va en parler tout à l'heure, ouais. Voilà, de relations hyper capitalistiques, quoi. Et c'est pas du tout ça. On veut plus être violé et on veut gagner des salaires. Allô. Mais effectivement, dans ce cheminement-là, on se rend compte que la culture du genre, elle est aujourd'hui pas du tout là pour aider les gens à cheminer, elle est là pour accompagner une oppression. Donc, si t'es homme, tu dois être comme ça. Si t'es femme, tu dois être comme ça. Et donc, ça va plus être possible. Et donc, aujourd'hui, toi, t'es un homme, moi, je suis une femme. Mais il y a beaucoup plus de proximité entre nos deux individualités qu'entre moi, femme, et une autre femme qui porte un t-shirt grab me by the pussy, pendant la campagne Trump. Donc, c'est nos valeurs qui nous réunissent, c'est notre humanité qui nous réunit. Et c'est pas le genre qui va faire qu'on est opposés l'un à l'autre, ça n'a aucun sens.
Et en même temps, on est aujourd'hui dans une société qui est complètement patriarcale.
Ouais.
Et que, en fait, tu l'as autant chez les hommes que chez les femmes.
Ouais, c'est une culture, en fait, c'est un système. C'est un système. Et donc, tu vois, si on revient sur Trump et toute cette fameuse culture du j'arrive jamais à le dire, mais white middle-aged man, middle-class man d'ailleurs, hétéro, etc. J'avais rencontré le bonhomme qui a créé ce concept, qui était dans l'administration Clinton, et qui a vu monter cette frange de la population hyper angoissée qui voulait garder ses privilèges, et puis leurs femmes qui disaient non mais mon mari il est pas si mal que ça quand même. Donc du coup c'est un système où il y a des hommes et des femmes qui veulent maintenir le patriarcat comme un système politique.
Parce que ça reste notre culture malgré tout.
Ouais, ça reste notre culture, et donc du coup, il faut qu'on défasse et qu'on défasse et qu'on déconstruise ça absolument. Parce que finalement, le patriarcat, c'est aujourd'hui, c'est la base de nos relations à nous-mêmes. Donc de ce que je suis censée être en tant que femme, ce que tu es censé être en tant qu'homme, c'est la base de toutes nos relations. Genré et non genré. Et donc il faut que ça cesse, quoi.
Et c'est vrai que c'est étrange parce que, et c'est compliqué parfois pour les mecs, parce que les femmes peuvent être dans des injonctions très patriarcales, c'est-à-dire je veux qu'un mec soit plus grand, je veux qu'un mec soit plus fort,
oui,
je veux qu'un mec, enfin tu vois, peu importe.
Oui, alors.
Et du coup ils nourrissent, enfin tu vois, c'est un jeu.
Bien sûr. Alors ça, je comprends, mais. Enfin. Moi, je suis dans ce cas-là. Par exemple, tu vois, il y a ce film génial qui s'appelle Avalanche. Et le pitch, c'est un couple qui part en vacances. Et il y a une avalanche. L'avalanche s'arrête devant le restaurant. Et quand elle tombe, en fait, le nuage de blanc tombe. Et là, on voit la mère avec les deux enfants sous les bras. Et le mec est parti. Le père, il est parti avec son téléphone en plus. Il revient. Et il est dans le déni total. Il n'a pas du tout abandonné sa famille, c'est juste une vue de l'esprit. Donc elle, elle a le double choc de ne pas avoir été protégée par son homme et du déni de ce manque de protection. Mmh. Là, on est, tu vois, on est au cœur du contrat homme-femme, dans l'intimité en tout cas, on est au cœur du contrat. Si on veut plus de patriarcat, il faut aussi qu'on revoie ce contrat. Mmh, mmh. Et c'est vachement challengeant, quoi, de se dire, voilà, est-ce qu'on est prête à ce que les hommes ne soient pas plus grands, plus protecteurs, pourvoyeurs, etc., etc., tu vois. Et donc, je pense qu'il faut défaire ça au niveau collectif. Après, au niveau individuel, au niveau intime, chacun a le droit de choisir le partenaire qui lui correspond, avec les fantasmes qui lui correspondent. Et si tu le fais en conscience, c'est un peu mieux, quoi.
Ouais,
c'est ça.
Oh là.
Hello, je m'invite. Ouais. Ça va, Greg?
Salut.
Salut.
C'est Pauline.
C'est Pauline Grisoni du podcast La Leçon. Je vous dérange un instant, ça vous va?
Mais
ou
qu'est-ce
pas
que tu fais là?
Salut.
Bah, déjà, il y avait de la lumière, du coup, je suis rentrée. Moi, j'ai une question. Mon podcast parle d'échecs, tu sais, et des leçons de vie qu'on en tire. Et je trouve que votre conversation est juste passionnante. Donc moi, j'ai envie de me rallier un peu à la cause. Et j'ai une question pour vous. Attention, ça rigole pas en plus. C'est du patriarcat. Moi, je me pose la question. Le droit à l'erreur, est-ce qu'il a un sexe? Tu vois. Tu sais, pour commencer, quelque chose de très simple, je vais poser une question facile. Non. Je me pose la question, tu sais, en matière de sexualité, c'est toujours la femme qui a la charge mentale sexuelle au travail, les nanas qui ont dû casser le plafond de verre, tout d'un coup ça leur fout une pression de dingue, parce qu'elles sont peu en haut et elles se disent, punaise, j'ai pas droit à l'erreur, tu vois. Moi je me pose la question, est-ce que le droit à l'erreur a un sexe?
Bah, je te laisse répondre, Greg.
Ah bah non, c'est toi l'experte.
Moi, on m'a demandé de poser une question, j'ai travaillé dessus. Hein.
Bah, je vois ça. Bon, bah, merci énormément pour cette question. Bah oui et non, c'est toujours pareil en fait. Je pense qu'on est dans une culture de la performance. Peut-être qu'on va en reparler après du capitalisme, mais le capitalisme était une maladie, tu vois, il ne pourrait pas choisir un meilleur allié que le patriarcat. Impossible que ça marche avec un matriarcat. En tout cas, pareil, pas dans le sens où je l'entends et où d'autres écoféministes, par exemple, entendent. Et le droit à l'erreur, il est pour personne, quoi. Un mec qui bande pas au lit, c'est injouable pour lui. Et donc, le droit à l'erreur, il est pour personne, mais il va se faire de manière genrée. Et je pense que le patriarcat oppresse les hommes comme les femmes, comme les LGBT, tu vois, encore plus. Mais il va le faire de manière différente parce qu'il y a des différences d'expérience et peut-être des différences naturelles aussi. Et il va utiliser la culture pour oppresser chacun des humains, en fait, de manière très, très efficace. Donc, pour les filles et les femmes, c'est ce truc d'être toujours la femme comme il faut. Et ce truc d'avoir des femmes lisses, lissées, polies, bourgeoises, comme il faut. Et pour les hommes, c'est est-ce que t'es un homme vrai? Et donc, ce droit à l'erreur, il est fatal pour un homme. Enfin, jusqu'à, je crois, la Deuxième Guerre mondiale, dans certains pays, les hommes qui tout d'un coup, à la guerre, continuaient pas et s'enfuyaient, et ils étaient fusillés pour lâcheté, ou ils étaient torturés aussi. Donc ce truc de l'erreur, ouais, non, c'est un truc que la société patriarcale n'admet pas du tout.
Mais c'est vrai que
c'est juste que ça, voilà, ça, les modalités sont différentes, quoi.
Mais c'est vrai que aussi on dit, enfin il y a cette expression qui est que une femme, pour réussir au même poste qu'un homme, elle doit faire 50 fois plus, ou en tout cas elle doit être beaucoup plus parfaite que ce qu'un mec aurait fait.
Il y a plusieurs choses. Il y a le fait de devoir faire plus, et puis il y a le fait d'y croire davantage aussi. Donc, tu vois... voilà, quoi. Non, mais...
Il y a de nouveaux invités, alors elle rigole.
Il y a plein de surprises, en fait. C'est ça. Non, mais on sait voilà, que pour un poste donné, un homme qui le désire va le demander, alors qu'une femme va se sentir tout de suite illégitime. Mmh. Et, voilà.
Okay. Et est-ce que tu crois que ça commence dès l'éducation, dès la paternité?
Bien sûr, bien sûr. Déjà, dans le berceau, on sait que les gestes pour un bébé fille et pour un bébé garçon sont pas les mêmes. Que les caresses, les câlins, les garçons y ont beaucoup moins droit. Et puis, ça va se développer tout au long de son éducation. Donc, un petit garçon est culturellement totalement coupé de son humanité, totalement coupé de sa vulnérabilité, d'un point de vue de son sexe, donc pas de son genre, donc d'un point de vue culturel, mais d'un point de vue de son genre. Il a aussi un cerveau du fait de la testostérone qui se développe plus lentement. Donc adulte, on a les mêmes cerveaux, mais en fait, à l'âge de 10 ans, tu peux avoir jusqu'à 2 ans d'écart. Tu vois, dans donc la maturation.
Les mecs sont vraiment en retard par rapport aux filles.
Ouais. en tout cas, dans le développement. Mais du coup, ce développement étant, tu vois, en décalage, sur des classes qui sont séparées selon les mêmes tranches d'âge, l'expérience d'un garçon, elle n'est pas du tout la même que l'expérience d'une fille. Et donc, si les garçons ne sont pas pris en charge de cette manière-là, il y a des études qui ont été faites et des expériences qui ont été faites où justement les garçons et les filles sont séparés sur certains cours pour permettre aux filles d'être déjà dans leur participation
plus
normale,
hein.
Mais d'aller plus loin, et aux garçons de ne pas avoir peur de prendre la parole, de se tromper, de cheminer, de débattre, etc. Mais ça montre que voilà, on a des garçons qui se développent de manière plus harmonieuse et plus entière. En fait, c'est ça, c'est le truc, je pense, du patriarcat, c'est qu'il nous coupe de notre humanité. C'est juste que la modalité est différente. Pour les femmes, ça va être par le corps, beaucoup, donc beaucoup de viols, d'agressions, d'un emprisonnement corporel et psychologique, bien sûr. Et pour les hommes, ça va être vraiment le cœur, quoi. On les a coupés de leur cœur.
Je comprends. Donc là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive.
J'arrive de mon donjon.
Hey, Greg, faut que tu fermes la porte à clé, là. Ça va continuer toute la soirée, sinon.
C'est quoi ce bordel, là?
J'arrive de ma tour, tout là-haut. Bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, May. Bonsoir, Greg. Je suis contente d'être là. Je suis Clémentine, du podcast Bliss Stories.
Salut, Clémentine.
Salut.
Et alors, je vous écoute depuis tout à l'heure. Et puis, évidemment, ça fait résonner plein de choses pour moi qui interview des femmes sur leur grossesse et leur accouchement, où elles me racontent tout sans filtre, ce qu'elles vivent de l'intérieur, dans leur vie de femme, dans leur vie de couple. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup, je parle beaucoup avec elles de la place de leur conjoint, des pères qu'elles ont à leur côté. Et j'avais une question pour vous. Du coup.
Pour Maï.
Maï, à ton avis, est-ce qu'aujourd'hui, les pères peuvent être des mères comme les autres?
Ah, ça c'est hyper intéressant comme question. Pour le coup, j'ai pas du tout la réponse. Mais déjà, s'ils pouvaient être pères, ce serait pas mal. Parce que, en fait, pour le coup, ça c'est une des grandes leçons que j'ai comprise dans ce film, que j'ai réalisé, c'est que beaucoup d'hommes de notre génération et de la génération d'au-dessus n'ont pas eu de père. Donc, pas eu de père parce que soit il était violent, soit parce qu'il était absent, soit parce que il était lui-même pas un homme, c'est-à-dire pas suffisamment adulte pour en plus être responsable d'un autre, de l'éducation d'un enfant. Et donc, le manque de père, ça détermine énormément les masculinités qu'on voit aujourd'hui autour de cette table et ailleurs. C'est donc ça, c'est une première chose. Et puis, on grandit avec des mères alors, qui font leur job comme elles peuvent, qui ne sont pas beaucoup aidées. Les enfants, ensuite, en petite section, arrivent avec des maîtresses jusqu'à l'âge de 10 ans, en fait. Tout le soin et cette notion d'amour, c'est seulement les femmes qui les portent. Donc en fait, un petit garçon, il grandit avec l'idée que l'amour et le soin, c'est pas une question d'homme. Et ça, c'est hyper dommageable pour nos relations ensuite, parce que pour réapprendre que, bien sûr que non, même si peut-être que ça doit se faire sur des modalités différentes, ça j'ai pas la réponse, mais ça c'est ça construit un enfant, enfin de manière décisive, on va dire. Donc pas au niveau individuel, mais au niveau d'une espèce, ça crée quand même des normes vachement vachement troublantes. Et ensuite, je pense que dans père et mère, aujourd'hui il en est vachement question avec la PMA, avec où on doit tous repenser ce que ça veut dire être parent. Et je pense qu'il faut vraiment se mettre à la place des enfants et savoir quels sont leurs besoins, en fait. Et les besoins d'un enfant, ils sont pas nécessairement genrés, en fait. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'empathie. Donc, t'en as parlé hyper bien avec Catherine Guiguen. Ils ont besoin de comprendre les valeurs de l'autonomie. Ils ont besoin de se d'être en contact avec leur singularité. Bon. Tout ça est pas nécessairement genré, mais effectivement, en tout cas, si on veut réinventer quelque chose, c'est bien de savoir d'où on vient. Les fonctions maternantes sont des fonctions où l'amour est nourricier et où l'amour paternel n'est pas un amour nourricier, mais l'amour qui te permet l'autonomie. Donc, certainement qu'il faut revoir ça. Et il y a aucune raison qu'un père ne puisse pas remplir des fonctions nourricières vis-à-vis de son enfant. Mais ça, l'amour nourricier, c'est bon pour le bas âge, jusqu'à 7 ans. À partir de 7 ans, un petit garçon notamment, il a besoin d'une figure masculine qui n'est pas nécessairement un père biologique ou un père direct. Mais je le dis souvent à mes copines qui sont en mère célibataire notamment et qui ont des petits garçons avec qui ça devient hyper difficile à partir de 7 ans et ça devient encore plus difficile à l'adolescence. Souvent c'est parce que en fait il n'arrive pas à se projeter en tant que petit garçon dans une femme. Et ça, il faut l'entendre aussi. Et ça ne veut pas dire que ça doit nécessairement être un père, mais il faut dans l'entourage des figures masculines qui soient aimantes, qui soient empathiques et qui permettent aux garçons comme aux filles de se lancer, quoi. Et après, moi, je n'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse, mais voilà, certains pédiatres disent que le même sexe va permettre à la plupart des enfants de se centrer, alors que l'autre sexe va permettre de s'individualiser par rapport à un regard extérieur. Donc quand même, nos manières de nous identifier sont pas les mêmes. Et puis ce que j'ai compris aussi avec ce film-là, comme avec le précédent film, c'est que nos traumas, ils sont très genrés quand même. Enfin, ils sont très sexués. C'est pas qu'ils sont genrés, mais ils sont très sexués. Et donc, si t'as un père qui te bat, c'est pas la même chose. Tu vas pas le projeter de la même manière sur le sexe masculin quand tu vas grandir, si c'est pas traité comme trauma. Si c'est ta mère qui te bat, tu vas pas le projeter de la même manière sur les femmes lorsque tu vas grandir si le trauma est pas traité. Donc quand même, il y a des choses où on peut pas totalement nier le sexe. Voilà. Ouais.
Ça répond à ta question.
Merci. En grande partie. Merci, Maï.
Tu veux d'autres choses?
Moi, je pourrais en parler des heures, tu sais.
Il s'est un peu incruste.
Non, mais. Oula!
Attends, il y a quelqu'un d'autre qui rentre.
Ah, là, c'est le portail, c'est la porte arrière, là, je crois.
moi, j'arrive à ce moment très, très facile où on parle de trauma et de violence et de choses comme ça, je suis ravi.
Bienvenue.
J'arrive chez Vlan où Greg a décidé pour l'épisode 100 de nous laisser faire son travail. Je suis ravi. Merci Greg. Alors, on parle des femmes, on parle des hommes, on parle de MeToo, on parle de masculinité. En ce qui me concerne, moi, j'ai grandi dans un monde où ma mère m'a appris, ma mère, hein, je dis bien ça, mais m'a appris à servir le vin et l'eau aux femmes, à allumer les cigarettes, éventuellement à faire pas mal de choses, à ouvrir des portes, à laisser passer, etc. J'ai remarqué il y a une dizaine d'années, quand j'étais dans des pays nordiques où je pouvais choquer des femmes en leur tenant la porte, ce qui m'a un peu paru très bizarre. Et en fait, mon trip, alors avec mon podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself, c'est d'apprendre des meilleurs et d'apprendre à apprendre, d'accord ? Et j'ai l'impression qu'entre ce monde que ma mère et mes parents m'ont fait découvrir et le monde d'aujourd'hui, il y a quand même une sorte de gap. Je parlais de Me tout à l'heure, vous en parliez aussi, mais et là, le gap, il a pris d'un coup, en un an, en 18 mois, une sorte de, tu vois, de surgap encore. Et je me dis, tout ça a changé à une vitesse. Et en fait, là, vous parliez du pourquoi, du quoi un peu. Moi, j'aimerais aussi vous poser la question à tous les deux, à toi, Maï, sur le comment. Comment t'apprends à être un homme en 2019, en 2020, quand t'as pas du tout appris à être un homme de cette manière avant?
Ça, c'est vraiment une question, c'est fondamental. Je pense qu'il y a toujours l'idée de constat et de déconstruire. Donc ça, c'est le travail que les féministes ont fait depuis très très longtemps, mais là, depuis MeToo, c'est invraisemblable. Ce qu'on a appris ensemble, en 3 années, c'est vraiment dingue, quoi. L'inclusion, la fluidité. Et puis, tout ce truc, en fait, est en train de remonter à trois grands chemins qui sont les femmes sont des humains comme les autres, on a droit à la même dignité. Mais dans ce cas-là, si on parle de dignité, et notamment si on croit ça avec l'inclusion, ben, on parle de choses qui sont vraiment humanistes, quoi. Il n'y a aucune raison que les hommes ne soient pas sur le chantier avec nous. Sur ce terrain-là. Ça veut dire quoi être un humain aujourd'hui? Et je pense que on est dans une époque qui est déroutante et hyper angoissante, mais en même temps qui est passionnante, où en fait nous sommes une génération qui doit créer une nouvelle culture. C'est totalement fou, quoi. Mmh. Et nécessairement, il faut remettre à plat ce truc de genre.
Et de galanterie, du coup.
Notamment de galanterie, et de savoir d'où ça vient, et de comprendre que, vu d'où ça vient, on ne va peut-être pas continuer. Mais ce n'est pas grave, quoi. Enfin, je pense, non? Donc, oui, parfois, il y a des couacs comme ça où tu ouvres la porte et on te demande de ne pas l'ouvrir parce que ça veut dire ci, ça veut dire ça. Mais finalement, ce pourquoi on est là, c'est à partir du moment où on ne peut plus te dire. Bon, t'es un homme, tu dois être comme ci, t'es une femme, tu dois être comme ça. Du coup, la question, c'est qui es-tu?
Mais c'est très compliqué parce qu'on te le reproche de temps en temps, finalement. Si je commence à fermer la porte, enfin, peut-être pas, mais à pas tenir la porte, à passer devant. Enfin, il y a des gens, dans notre culture et notre société, c'est un héritage dont on parle.
Bien sûr. En fait, t'as l'héritage et t'as le prêt-à-penser. Donc, la culture, c'est une sorte de prêt-à-penser pour, on automatise. Et on codifie certaines de nos relations. À partir du moment où certaines personnes vont dire moi ça me va pas. Ah bon, mais pourquoi? Et dans ce cas-là.
Je te couper, mais c'est vrai que je me projette en ce moment et je me dis, mais. Enfin, alors peut-être que c'est un truc vis-à-vis de moi-même, mais juste ouvrir une porte, passer devant une jeune femme, une femme, et la regarder en disant, mais en fait, je t'emmerde, tu vois, t'es un homme quand même, moi, en fait. Donc, vas-y, je passe, tu vois, mais pour moi, c'est irréel. Et en fait, et la plupart des femmes à qui je ferais ça se diraient, mais c'est quoi ce gros connard, tu vois? Il y a quand même, c'est vrai, c'est une réalité, c'est le monde dans lequel on vit,
même. Ouais. Le monde dans lequel on vit est d'une complexité incroyable parce qu'en fait, chacun est en train de choisir sa culture. Et donc, le vivre ensemble commence à être compliqué parce que, ce truc de la porte qui est un exemple très, très singulier montre que chacun est en train de choisir sa paroisse, quoi. Et là, en fait, on a un moment où chacun va choisir ses croyances. C'est ça, je trouve ça incroyablement... Enfin, c'est fou parce que finalement... En déconstruisant le... Ok, donc on était sur Weinstein. On en a marre de se faire violer. Ok.
Ensuite...
Je vais pas blaguer dessus parce que moi, je me sens pas de blaguer dessus. Voilà.
Tu vois, 80% des femmes ont subi une agression sexuelle à un moment donné de leur vie. Donc c'est juste notre norme. Donc du coup, on est en train de dire « Ah oui, mais culture du genre... » Culture du viol, mais culture du genre, ok, on refait la culture du genre, ah oui, d'accord, mais alors du coup, on est tous des êtres humains, ok, mais ça veut dire quoi être humain? Ok, mais, ah oui, mais est-ce que t'es essentialiste ou est-ce que t'es... Et du coup, on est en train de cheminer à cœur ouvert et à voix ouverte, et évidemment que ça introduit énormément de complexité, parce qu'on est en train de cheminer, on est en work in progress là. Mais c'est en même temps génial, et c'est pas toutes les générations qui ont ce privilège, c'est un grand privilège en fait qui nous est donné là. Donc,
Je pense que Mathieu, tu te fous une pression justement, on parle beaucoup de la pression de la masculinité, et là pour moi c'est aussi une forme de pression, parce que finalement c'est pas très très grave, moi je pourrais peut-être tenir la porte suivante, et puis... Est-ce que c'est vraiment grave? Non. En fait, une pression pour toi?
Alors oui et non, parce que parfois quand même, il faut dire la vérité, tu peux recevoir avec ce petit incident beaucoup d'agressivité.
Donc, je me la fous pas la pression en fait. La porte, je la tiens, okay. Et le verre de vin, je le sers, ouais. Et tout ça, je le fais. Mais oui, par moment, il y a une sorte de choc de génération où je sens, et c'est ce que tu dis, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce choc de génération, en faisant ça, pour certaines personnes, t'as l'impression d'être un vieux con. Mmh. Et en fait, quelque part, la raison par rapport à tout ça, et l'évolution va vers le fait que je suis un vieux con et qu'il faudra plus le faire à un moment. Et la raison, elle est probablement là-dedans, tu vois. Non, mais probablement, je suis pas si vieux que ça, ça va.
Ce qui compte est de le faire en conscience.
C'est ça.
Je comprends tout à fait ce que tu veux dire.
Je te renvoie à cet épisode sur la galanterie. Exceptionnel.
Ah, voilà.
Allô.
Allô.
Eh oh.
Oh là. Salut.
Salut tout le monde. Bon, vous avez l'air de discuter de trucs un peu qui vous tendent. Et en fait, moi, je suis plutôt du genre à détendre les gens. Donc c'est l'occasion. Moi, c'est Lélé. Et j'ai le podcast Vox. Vox, c'est un podcast pour la masturbation des femmes. On leur offre un peu une nouvelle approche et une nouvelle consommation du porno. Et moi, j'ai une question que je me pose, c'est est-ce que finalement les hommes, ils n'ont pas aussi besoin qu'on leur offre cette possibilité de consommer le porno différemment, et puis aussi peut-être simplement d'avoir une autre vision de leur corps? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, faut chuchoter pour répondre.
Non, elle mais ça, c'est mon truc. Bien. C'est mon truc.
C'est la folie. Tout le monde est là.
J'ai dit que je détendais les gens. Si vous voulez vraiment détendre vous.
On est tous coincés. On a le cul serré.
Je relâche rien du tout, là.
Tout va bien se passer. Non mais sérieux, qu'est-ce que vous en pensez alors, vous?
Ah mais c'est hyper important, en fait.
Et le rapport à la sexualité, bah, d'ailleurs, alors, tu disais, les hommes qui sont éduqués par les femmes.
Alors, désolée, je mets un petit temps, mais je pense que déjà, je sais pas si faut consommer du porc.
Je précise que Lélé s'est mise en chaussette pour poser sa question.
C'est que je suis détendue, ultra détendue. Est-ce que ça vous gêne ou pas?
Une question, un vêtement.
Non, une mauvaise réponse. Vous jouez tous avec moi, les gars.
J'ai pas mis de soutien-gorge.
Moi non plus, j'en mets jamais.
Ok.
Non, sérieux. Parce que c'est vraiment sérieux, cette question.
Bon. Alors, dis-nous tout, Maï.
On disait tout à l'heure que le capitalisme, si c'était une maladie, il n'aurait pas mieux pu utiliser le patriarcat tel qu'il est utilisé dans ce besoin de performance permanente. Et le porno aujourd'hui, il est vraiment lidé par ça, aussi bien au niveau de la thune que de ce qu'on y voit. Et en fait, c'est un poison qui détruit la sexualité
de tout le monde.
Voilà, de tout le monde. Donc, parce qu'il crée, il peut créer de l'addiction, mais aussi parce qu'il crée des images. Et en fait, les images au niveau neuronal, bah, ça n'a pas la même puissance. Enfin, ça a une puissance extrême. Ouais. Donc, en fait, la sexualité masculine qui déjà, comment dire, au départ, dans sa naissance et dans son éclosion est déjà hyper immature. Donc si en fait tu colles à ça une pornographie hyper violente, en fait tu vas associer masculinité, enfin sexualité masculine avec le cerveau, avec le mental. Et en fait il faut redescendre tout ça dans le corps, pas dans le bout de ton pénis, quoi. Ouais. Tu vois, la tête de ton pénis, pas dans ton cerveau. Et en fait, le cerveau, c'est génial pour dans la stimulation,
l'imagination,
etc. Mais ça peut être aussi un double tranchant où, en fait, tu sais pas ce que ton corps veut vraiment. Et puis surtout, quand est-ce que tu connectes ta sexualité à tout le reste, quoi.
Et c'est vrai que pour ça, le porno, ça empêche ton imagination. Parce que par définition, quand tu vois des images, tu ne réfléchis plus, en fait.
Bah, tu fixes. Donc, je pense que c'est un outil génial. Et puis, surtout, là, sur Vox, tu vois, c'est génial, quoi.
Enfin, merci.
Non, mais je vous invite toutes et tous à découvrir Vox. Non, mais c'est...
Ah bah
c'est
clair.
Parce que... marque de chaussettes.
Et donc, oui, les hommes ont besoin, dans la sexualité, de découpler ça de la performance. Ouais. Et c'est vraiment, c'est un piège énorme. Mais ça te tue, une sexualité. Et vraiment, c'est très dommage d'avoir une vie sans sexualité.
Il y a beaucoup de femmes aussi qui sont dans la performance, dans le sexe. Parce que moi, je connais un certain nombre de femmes qui me disent « j'arrive pas à prendre du plaisir parce qu'en fait je me regarde et du coup je suis tellement dans le contrôle que du coup j'arrive pas à me relâcher finalement.
Bah, de toute façon, tant que t'es dans le mental, tu peux... Enfin, la question n'est pas d'y arriver parce que c'est tout sauf ça, le sexe.
C'est pas une performance,
c'est
effectivement.
C'est pas une performance, c'est pas y arriver, il n'y a pas de médaille au bout.
Il n'y a pas le concours du plus grand nombre d'orgasmes.
Il n'y a pas le concours. Et en fait, Enfin, ce que je trouve vachement beau dans Vox, par exemple, c'est toute l'idée de connexion, de connexion entre les êtres qu'on entend et l'idée de donner du plaisir, quoi, et pas de trouver le bon partenaire, tu vois. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, si t'es dans l'idée de donner du plaisir et que ton partenaire ou tes partenaires, s'il y en a plusieurs, sont aussi dans la même idée, putain, c'est génial, quoi. Et ça, ça passe pas par du mental, encore moins du mental violent.
Ok. Mmh.
Donc oui, une nouvelle pornographie pour les hommes, s'il vous plaît.
Hello.
Hey. Mais c'est l'auberge espagnole, en fait.
Nous, c'est Céline et Margot d'Entre nos Lèvres. Et on débarque.
Bonjour, Céline et Margot.
Bonjour, Céline et Margot.
On se présente ? Ouais. Ok.
Bah oui, c'est le moment, je pense.
Ouais, Entre nos Lèvres, c'est un podcast avec des portraits intimes, dans lesquels on parle de sexualité, mais on décortique le rapport des gens à leur sexualité. Et du coup, nous, on est relou, parce que comme on est deux, on a deux questions.
Moi, je m'en fous, c'est Mike qui répond.
Et la première pour toi, Mike, c'est qu'est-ce que ça évoque pour toi, le terme de virilité ? Et est-ce que tu trouves que c'est une notion nocive ?
Bon, donc là, on a beaucoup parlé dernièrement du mythe de la virilité et de... du fait qu'on essentialise un homme au fait qu'il puisse bander, grosso modo, hein, d'accord ? Avec toutes les symboliques du plus grand, du plus fort, du plus dur.
La plus grande,
les grandes tours, des tours toujours plus grandes, toujours plus riches. Et encore une fois, si tu veux être dans une société capitaliste, tu peux pas avoir meilleur allié que la virilité. Et donc, évidemment, c'est une notion hyper, hyper nocive et hyper toxique en sexualité, comme dans toutes nos relations, quoi. Mais aussi, des hommes par rapport à eux-mêmes, s'ils sont essentialisés. Par exemple, tu vois, un homme, il est vraiment essentialisé à la thune qu'il gagne. Mmh. Aujourd'hui, un homme qui perd son job, il perd sa dignité. C'est un bon à rien. C'est pas le cas des femmes. Les femmes, par exemple, elles s'occupent beaucoup des autres. Vous en aviez parlé avec Victoire. Donc, elles sont beaucoup dans le soin de l'autre, etc. Elles ne sont pas rémunérées pour ça, mais elles le font quand même. Mais quand elles le font, elles ne se disent pas « je suis vraiment une femme comme il faut ». C'est un truc d'humanité. Donc, voilà, il faut qu'on tire les masculinités vers ça, vers le soin de l'autre, être au service. Donc, là, on est dans un truc de virilité où ce qu'il faut, c'est avoir la boîte la plus performante de la Terre.
La plus grosse voiture.
La plus grosse voiture, etc. Mmh. Donc, finalement, on est sur une masculinité très enfantine, très infantile, qui n'a pas du tout grandi. Donc, quand tu potentialises cette énergie, qui est quand même une énergie incroyable, parce que si on voit tout ce que ça a construit, si cette énergie, on la potentialise au service des autres, de l'autre, de l'humain, de... Je sais pas si vous imaginez ce qu'on peut créer, quoi. C'est fou. Donc, il faut qu'on grandisse tous ensemble, quoi. Mais c'est vrai que là, on se rend compte là qu'on est sur des sociétés hyper infantiles. Donc, ouais, virilité, c'est une modalité. Moi, par exemple, j'ai un mec qui est très viril. Mais c'est une modalité. Et puis surtout, il est viril à certains moments. Et puis après, fluidité, quoi. Ouais. Ouais.
Il y a ça aussi, cette histoire de fluidité.
C'est cette histoire de fluidité. À un moment,
c'est
comme...
il est fluide.
Excusez-moi, déjà, ça ressort comme ça.
Il y a deux minutes, tu t'es dit, putain, celle-là, je la sors. La fin, ça sort.
C'est le moment où tu te sens seul. Alors que sur ton podcast, t'invites plein d'hommes et de femmes qui ont gagné beaucoup d'argent et vendu des très grosses boîtes.
Il est en train de faire sa pub.
Mais en fait, l'argent lui-même, l'argent n'est pas sale. C'est pas ça. C'est le génial, en fait. Tu vois, tu fais un projet qui cartonne, qui engendre de l'argent, etc. Il y a aucun problème à ça. Le problème, c'est que ce soit notre pacte social. Le pacte social, c'est de faire grossir le PIB. Ça n'a aucun sens quand il pense le niveau de notre...
De revenu intérieur brut.
Ouais. Non, mais quand tu y penses, c'est...
Ouais, ça n'a aucun sens.
C'est, tu vois, on parlait de choisir nos croyances. Nous, on a quand même été élevés avec la main invisible. On nous apprenait ça à l'école.
Adam Smith.
Non, mais quand même, tu vois, il y a une main invisible qui va équilibrer l'offre et la demande et les marchés. Mm-hmm. C'est totalement fou. Et donc, tout ça, ce sont des croyances, en fait.
Ah, bah, complètement.
Et donc, le capitalisme est une croyance comme une autre, mais qu'il va falloir qu'on défasse très, très rapidement, là.
On n'a pas le choix avec le problème écologique.
Ouais,
mais...
ouais.
C'est clair et net.
Ouais. Mais...
Ouais. La meuf, elle me regarde, c'est bon, on n'est pas enregistré, ouais. Tu vas être tranquille.
J'ai la pire blague du monde. Mon cours, c'était Adam Smith sur un bateau, il tombe à l'eau, qui c'est qui l'a poussé? La main invisible.
Voilà. Entre nos lèvres n'est pas un podcast sérieux.
Donc du coup, elle existe ou pas?
Et t'avais une autre question sur la sexualité,
ouais,
du coup.
Du coup, c'est pas une super transition, là.
La main invisible.
Non, moi, savonner la planche. Avant que j'arrive, toi, tu t'es savonné toute seule.
Ça sera coupé au montage.
Ou pas.
On coupe rien.
Oh, putain.
Ok. Alors, ma deuxième question. Notre deuxième question. Ouais, c'est pas mal.
Débrouille-toi.
Ok. Donc, on a parlé de MeToo, de performance, de tout ça, donc c'est parfait. Et de chaussettes. Et moi, je suis pieds nus.
Bah, j'essaie.
Et bah, ouais.
Mais t'as un truc avec les pieds, en fait. Non,
il y a des gens qui ont des chaussures, des gens qui sont pieds nus, des gens qui sont en chaussettes.
On découvre que Mathieu est fétichiste sur les pieds.
Je vais mettre une chaussette.
Est-ce que tu veux venir en parler chez nous?
Ça fait des années que je cherche un moyen de rentrer dans ce podcast en train de rêver. J'ai enfin trouvé, là. Après, j'irai chez les.
Avec plaisir.
Ok, donc notre deuxième question. Bon, on sait que les mecs, ils se sont toujours infligés une pression de ouf par rapport à la performance. Et nous, ce qu'on se demandait, c'était si justement ces derniers temps, cette dernière année ou les 18 mois dont Mathieu parlait tout à l'heure, post-MeToo, avec toute l'émergence de la parole féminine, etc., est-ce que maintenant la pression, c'est plus tant « il faut que je sois bon au pieu et que je bande bien fort », mais plutôt « faut que je sois un mec bien et faut que je sois dans l'égalité intime ».
Ah oui, alors ça c'est... Ouais. Alors,
on revient sérieux là.
Non, mais... En fait, c'est choisis ta pression. Quoi.
Parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Pauline, des fois les mecs ils sont là. Attends, je t'affiche, pardon.
Ça balance. Je voulais faire écouter cet épisode à ma mère.
Je voulais pas dire que c'était toi qui m'avais raconté. J'ai dit qu'on en parlait. Des fois les mecs ils sont là. Ça va, t'es sûr, tout va bien. Ouais, c'est bon, genre ça va. Genre maintenant, arrête.
Bande. Vous imaginez la difficulté que ça vous est en train de dire, hein.
N'écoutez pas Mail, en fait.
C'est la complexité du monde dont Mathieu parle.
Alors, c'est marrant ce truc parce que... Qu'est-ce que je vous raconte, du coup? Dans la sexualité, il y a une partie très, très animale qu'il faut recontacter. Et cette partie très, très animale qu'il faut recontacter, encore une fois, elle n'est pas dans le mental. Et dans le mental, il y a toutes les hésitations de est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que j'agite pas, est-ce que je pénètre. Et donc, un flot infini de pensées. Tu ne peux pas avoir du bon cul si tu passes ton temps à penser. C'est impossible. Donc, en fait, la réponse, c'est descendez dans le corps. Descendez dans votre vide, dans vos mains, dans votre langue, dans tout ça, dans votre peau. Et voilà, switch off du mental, quoi. Mais c'est évidemment beaucoup de travail parce que, en fait, voilà, ça fait des milliers d'années qu'on est dans une sexualité qui est très mentalisée. Mais du coup, c'est cette révolution-là qu'il faut faire au lit, quoi. Et dans cette révolution-là qu'il faut faire au lit, non, on demande, une fois qu'on a consentement et qu'on travaille sur une connexion qui est corporelle, la connexion qui est corporelle, elle est autant présente à chaque instant. La question du consentement ne se pose plus à ce moment-là parce qu'on est nécessairement dans la connexion et dans le désir de l'autre, quoi. Donc, je pense que c'est la meilleure option, non?
Et alors, ouais. Du coup, tu penses que tous les mecs devraient faire un stage de tantrie?
Ah ouais, ce serait vachement bien, ouais. Je peux vous dire.
Parce que t'es vraiment ça, en fait.
Ah bah, non, mais disons qu'un mec qui a fait un stage de tantra, c'est pas mal.
On sent que tu parles d'expérience.
non, mais c'est pas mal, parce qu'en fait, je pense que c'est bien, toujours dans cette révolution humaniste, de recoupler l'idée de se faire plaisir. Et, je sais pas, le sexe, c'est se faire plaisir quand même, tu vois.
Donc, faire plaisir à l'autre.
Donc, et voilà, donc c'est pas un truc de performance, c'est anti-performance, c'est un autre champ d'exploration. Et quand t'es à deux pour le faire, que tu sois avec un sex buddy ou avec l'amour de ta vie, c'est pareil en fait. Si t'as du respect, si t'as du. Si t'as de la curiosité, si t'as de l'envie. Et du désir, etc. Mais en fait, vous allez faire un voyage génial ensemble, une exploration géniale ensemble. Donc, c'est pas est-ce qu'il faut faire ci.
Mathieu, non. On a des adresses pour toi de stage de tantra.
Et je peux te dire que c'est vachement bien.
C'est le seul mec. Donc,
elles seront
finies. Voilà.
Oui.
Bouh. Il y a un nouveau mec.
Salut. Ça va?
Mais salut.
Salut Greg, salut Mike.
Salut Angelo.
C'est Angelo du compte Instagram et du podcast Balance Tapeur. Je viens un peu casser l'ambiance, du coup.
Oh non.
Désolé. Mais
en équilibre en termes de.
Non, déjà, le mec, il arrive en retard.
Donc, je suis trop content de vous avoir tous les deux là, en face, pour vous poser ma question.
Merde.
Qui va concerner les deux sexes, parce que pour moi, et c'est ce qu'on a vu dans nos deux épisodes, la masculinité, elle peut se trouver chez une femme et chez un homme.
Ouais.
Comment on fait pour. Apprendre à être vulnérable, à exprimer sa vulnérabilité quand on est un homme ou une femme dans sa masculinité.
Et bim.
Et me compte triple.
Angelo, il n'est pas là pour déconner.
Non, mais je peux parler de cul après. Mais...
Alors, est-ce que la masculinité, est-ce que la virilité est genrée déjà et sexuée pour toi? C'est ça que tu nous dis?
Ma question,
est-ce qu'il y a un genre à la masculinité? Ou une manière spécifiquement masculine d'être vulnérable?
Par rapport à ce que j'ai partagé avec vous sur chacun de vos épisodes, a priori, il y a du masculin et de la masculinité chez un homme et chez une femme aussi.
Mm-hmm.
Et ma question est donc du coup pour les deux sexes, puisqu'elle concerne toutes les masculinités. À savoir comment on fait pour exprimer sa vulnérabilité qui semble être une des clés dans ce que tu as dit juste avant pour pouvoir retrouver cette humanité dont on parle.
Ouais.
C'est quoi déjà pour toi la vulnérabilité pour vous?
Oui,
et puis comment on l'exprime
déjà.
Comment on peut apprendre en fait?
Alors, la vulnérabilité pour une société comme la nôtre, c'est la grosse révolution, je trouve. Parce que c'est apprendre au temps présent à dire qui tu es. Quelle que soit la réponse de l'autre.
Donc, et à te reconnecter à toi aussi.
T'es obligé de te reconnecter à toi pour savoir. Donc c'est la personne qui est au milieu de l'arène et qui va montrer qui elle est, quelle que soit la réponse du public ou du voilà. Donc c'est un exercice hyper difficile parce que encore une fois, on n'est pas dans la performance, on est vraiment dans un truc de vérité, de singularité. Et pour ce faire, il faut beaucoup de courage, comme dit Brené Brown. Courage, ça vient du mot cœur. Donc il faut ouvrir son cœur. Et je pense que ça se fait pour un homme et pour une femme de la même manière. Mais la parole des hommes... Enfin, on est dans une culture où les hommes n'ont pas appris à parler. Ils n'ont pas appris à comprendre leurs émotions, à mettre des mots dessus et à les circonscrire. Donc en fait... Tu vois, ça fait 8 ans que j'ai le blog et que j'ai filmé une centaine de femmes qui m'ont parlé de leur vécu. C'est simple, en fait, pour les femmes de parler. C'est très, très simple. Alors, c'est du fait du sexe. Donc, on l'a vu, tu vois, à 10 ans, ben, on est vachement plus avancé. Mais du coup, ça crée une expérience où on pense qu'on est avancé et une culture qui... Voilà. Mais les hommes, aller chercher une parole d'homme, authentique, vulnérable, c'est très très dur. Donc c'est pour ça que je disais à Jerry, mais il faut qu'on fasse un film sur ces mecs, parce qu'ils ont appris, et c'est vraiment, en fait, c'est une compétence à acquérir, être vulnérable.
Moi, j'ai jamais autant transpiré qu'en passant chez Angelo. Je pense.
On a pas mal envoyé de textos. Et
Mais t'es sûr que tu veux dire ça?
Oui, parce que c'est un exercice très très difficile de pas être... celui qu'on attend, c'est vachement facile, en fait, enfin, sur des profils comme Greg et moi, surtout, de comprendre quelle est la demande de l'autre avant qu'il l'ait exprimée, et du coup, de fitter et d'être le caméléon parfait qui va dire, avant que l'autre l'ait exprimé, ce qu'il a envie d'entendre. Et donc, pour nous, c'est un trajet énorme, en fait, de revenir sur soi et de dire, ben, en fait, non. ou au contraire, oui. Tu vois, et je sais pas du coup si ça répond à ta question.
Si, ça répond à ma question par rapport à ton point de vue de femme. Et je voulais savoir aussi, justement, l'intérêt c'est ça, c'est de voir Greg, pour toi, du coup, qui je trouve est quelqu'un qui exprime assez facilement sa vulnérabilité. Est-ce qu'on t'a appris à le faire?
Non. moi j'ai une part, enfin, on en a discuté, mais j'ai une part féminine assez développée, du coup je pense qu'il y a ça, j'ai beaucoup d'amis femmes, beaucoup plus que d'amis hommes, donc j'ai ces conversations en privé, et je crois que c'est quelque chose que j'ai acquis au fur et à mesure, mais pour être tout à fait honnête, l'accès à mes émotions il est quand même assez difficile, et je crois que Brené Brown, auquel je faisais référence, j'ai regardé son TED, ces discussions qu'on a eues aussi avec Maï, j'ai lu son bouquin, et ça m'a permis de me donner l'autorisation d'accéder à ça, d'y accéder donc pour moi-même, mais aussi de l'assumer ensuite, et pas me dire que c'était une faiblesse, mais que c'était potentiellement une force. Mais c'est vrai que pour la majorité des hommes, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas beaucoup d'amis hommes, c'est une partie auquel... ils veulent faire bonne figure, entre guillemets. Donc, ils veulent pas montrer cette partie d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, ils veulent même pas se la montrer à eux-mêmes. Donc, du coup, ça crée parfois des blocages conversationnels, quoi. Parce que, tu vois, ils sont toujours les plus forts, les plus beaux. Et cette partie-là, quand ils vieillissent, ça change. C'est l'avantage de la maturité. Et ils ont plus accès.
Donc mais ça prend du temps à cause de la testostérone.
On a toujours la bourre.
Ouais, les mecs sont à la bourre. Hein, c'est une horreur.
C'est un peu plus lent. Mais après, tu vois, il y a cette fameuse phrase d'Erasme, on ne naît pas homme, on le devient. Mm-hmm. Et il y a un vrai truc sur l'énergie masculine qu'il faut éduquer, quoi. Si tu l'éduques pas,
Et pas dans tous
Trump.
Les sens. C'est n'importe quoi.
Non, mais... et après, je pense qu'il y a... si je reviens à ta première question, le pourquoi est-ce qu'une femme peut parler de masculinité? Parce que, en fait, c'est un débat de tous les humains aujourd'hui. Parce que si on ne peut pas juste être féministe, en fait. Selon moi, on peut réinventer ce que ça veut dire d'être une femme aujourd'hui, prendre la parole, exposer toutes nos singularités, etc. Mais si on ne s'adresse pas et si on ne recrée pas de nouvelles masculinités qui sont vertueuses, qui sont humaines, en fait, on aura toujours des pussy grabbers. Mmh. Toujours. Parce que si on associe, je pense qu'on sous-estime totalement la quête existentielle que c'est de devenir un homme. Ça veut dire quoi, devenir un homme pour un homme? Et en fait, pour beaucoup d'hommes, c'est très important.
Et en particulier dans une société où il n'y a plus de rites.
n'y a plus de rite de passage. Mmh. Donc, en fait, il y a trois gros trucs. Il n'y a pas de père, pas de role model. Donc, en fait, on n'associe pas le fait d'être un homme vertueux au fait d'être un homme. Donc, c'est un super humain, quoi. Mmh. Mais on ne dit pas « ça, c'est un homme à vrai », quoi. Mmh. On dit « ça, c'est un homme à vrai » quand on parle de Poutine. Trump, il a été élu par, tu vois, par beaucoup de femmes.
Bien sûr.
C'est un homme à vrai, quoi. Tant que la société permettra ça, on aura toujours des Trump et des Pussy Grabbers et des Bolsonaro, etc. Et donc, il faut vraiment qu'on challenge ça et qu'on recrée ça, quoi. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas totalement dans le... faut juste qu'il n'y ait plus de genre. C'est ça la solution. Parce qu'en fait, pour beaucoup de gens, en fait, c'est important. C'est important de dire, moi je trouve ça hyper beau d'être une femme. J'ai cheminé là-dessus, ça m'a empuissancé énormément. Il y a plein d'hommes pour qui c'est important. Et il y en a pour qui c'est pas important. On va vivre ensemble, en fait. Mais dans cette inclusivité, je pense que c'est important aussi d'accueillir ça.
Et chacun peut vivre son genre de manière
totalement différente. Totalement différente.
C'est intéressant. Ouais, il n'y a pas que deux modalités, en fait.
Non, non, plein.
Je peux continuer à servir le pinard.
Mais carrément.
Tu peux continuer à faire l'opinion.
Tu peux continuer à ouvrir les portes. Voilà.
PS, je suis la seule qui est suivie, mais t'as parlé de trois raisons. Il manque la troisième.
Oh,
ouais,
non, j'allais
demander. Oh, ça, c'est beau. Entre des lèvres, reviens dans la course.
Super. J'ai dit ça, moi.
T'as dit trois.
Ouais. Donc, on l'attend.
T'as dit le père.
Quoi, les deux premières?
T'as dit le père, le role model, et ensuite...
Attends.
Ah oui, et les rites de passage.
Ah. Et les rites.
En fait,
oui.
Dans certaines philosophies, dans certaines cultures, en fait, on considère que... Enfin, c'est pas dans certaines cultures. Il y a certains pédiatres, voilà, qui disent que l'éducation des petits garçons a toujours été, pour toutes les cultures, un des challenges les plus monstrueux à dépasser. C'est beaucoup plus difficile. Dans beaucoup de peuples, on les appelle les peuples racines, donc ce sont des peuples qui vivent de la même manière depuis des millénaires, et qui ont, tu vois, là où les Égyptiens sont, ils ont clamsé, les Grecs ont clamsé, les Romains ont clamsé, nous bientôt, ben, on va clamser aussi. Bah, eux, ils n'ont pas clamsé. Non mais, quand même, tu vois, ils ont duré, quoi. Donc, on a des choses à apprendre aussi.
Un milliard.
Il y a même des gens qui disent aujourd'hui, il faut qu'on redevienne indigène. C'est eux, en fait, nos leaders. Donc, quand on parle de choisir nos croyances, tu vois, on va devoir cheminer là-dessus aussi. Il y a toujours des rites de passage. Toujours des rites de passage d'un moment où on donne une épreuve au jeune garçon qui va lui permettre d'accéder à l'âge adulte. Et en fait, le fait qu'il n'y ait plus de rite de passage fait que peut-être... Non mais, tu vois, peut-être, fait, on n'a pas d'homme du tout, parce qu'en fait, on laisse les garçons errer et ne pas accéder, ne pas avoir un moment où d'autres hommes et d'autres femmes lui disent « Là, tu as mérité ton rang ou ton nom d'homme, en fait. Et avec des valeurs vertueuses qui sont posées dessus, parce que je pense que...
Ah ouais,
ah mais on a carrément des téléphones dans la salle.
Non mais...
Mais en fait, pour voilà. Juste au point.
Et donc, voilà.
J'adore parce que tout le monde sait qui c'est, parce qu'elle est hyper rouge et elle se met la main.
Mais Margot voulait me dire un truc, elle voulait pas interrompre et c'était important pour savoir voilà. Si... Bref.
Entre nos lèvres, redescend d'un coup. En fait, il y en a une qui relève le niveau, quoi. C'est ça.
C'est pour ça qu'elles sont deux.
Non, mais ce qui est marrant, ce qui est vachement intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on peut être un petit garçon et un père sans être un homme.
Exactement.
Et ça, c'est un truc que moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, finalement. Ouais.
Parce que c'est une maturité psychologique. Et c'est ça, de devenir un homme, c'est en fait de développer la maturité psychologique pour être à nouveau, pour être au service et être à nouveau en possibilité de faire grandir une société, ton enfant, tes amis, etc. Et en fait, il y a très très peu d'adultes aujourd'hui. En tout cas, si on croit à cette philosophie-là, bah, dans cette grille de lecture-là, il y a très très peu d'adultes aujourd'hui. Et je voulais ajouter un truc sur les rites de passage, c'est que les rites de passage, ils font grandir les garçons, mais ils font grandir les vieux aussi. Parce que les vieux, ils ont une utilité à ce moment-là.
Bien sûr.
ils transmettent un savoir, ils transmettent un... Et dans ces rites de passage, beaucoup de choses sont liées à la peur. Donc beaucoup de choses sont liées à la possibilité et à la possibilité d'appréhender ses peurs et de les traverser. Et donc, quand t'as pas appris ça, et quand t'as rien, en fait, parce que l'école du vivre ensemble, bon, pour l'instant, on n'y est pas trop, tu vois.
Non.
Donc, en fait, t'as rien dans la société qui t'apprend, à part le conte Balance ta peur. Tu n'as rien dans la société aujourd'hui qui te permet de comprendre ce que c'est la peur, comment la traverser et comment vivre avec elle. Mmh. Mais pas, enfin, tu vois, pas en étant déterminé par elle inconsciemment. Et donc, la société, normalement, elle est faite pour faire grandir les individus, pas le contraire. Et nous, aujourd'hui, c'est le contraire, en fait.
J'ai envie de pleurer, putain.
Alors voilà, un homme qui a un mec qui va pleurer, quoi, c'est beau. Vas-y, pleure, Angelo.
Voilà le troisième point.
D'autres remarques. Maintenant, vous êtes tous.
Non, mais c'est vrai. J'ai observé vachement de couples et moi-même dans mes différents couples que beaucoup de couples étaient construits sur finalement la base enfant-parent, c'est-à-dire qu'il y avait souvent une petite fille, un papa ou une maman,
ou l'inverse,
ou un petit garçon.
Mais après, moi, j'ai même une hypothèse. Alors, fumeuse, mais why not.
Mais existante. On est le soir, c'est pas grave. Non.
En fait, il a manqué tellement de pères qu'on n'a pas arrêté de le chercher, ce père, dans notre vie d'adulte. Mmh. Et on le cherche dans son boss, on le cherche dans son psy, on le cherche dans le dictateur qu'on va mettre au pouvoir, dans le président. Le patriarcat est là parce qu'on manque de pères dans les familles. On manque de pères d'amour. Et donc, du coup, on le cherche parce qu'on n'a pas pu, on n'a pas eu la possibilité d'internaliser notre père intérieur parce qu'on n'en a pas eu à l'extérieur.
Et d'ailleurs, ça
Et donc, du coup, voilà. Pardon. Donc ça, c'est mon hypothèse.
Non, mais c'est intéressant parce que dans le documentaire donc The Work qu'on a regardé ensemble, donc Le Travail, qui est un documentaire américain qui est disponible uniquement malheureusement dans l'Apple Store américain, tu te rends compte que tous ces mecs qui sont en prison le sont parce qu'ils ont un problème de rapport à leur père qui était absent principalement.
Ouais, c'est tous des... En fait, c'est un film sur des thérapies de groupe. Donc c'est, en fait, c'est exactement ce que fait Jerry avec ses hommes, sauf qu'il n'est pas dans le milieu carcéral. Mais là, voilà, on s'adresse, on est avec un public, enfin pas un public, mais avec des hommes qui travaillent sur eux-mêmes depuis... The Work, ça existe depuis 14 ans, je crois. Ils font ces groupes de parole toutes les 2 semaines. Et tous les 6 mois, ils invitent, lors d'un work de 4 jours... des personnes de l'extérieur à venir assister au work et à participer au work. Et en fait, on va suivre 3 personnes de l'extérieur qui vont en fait se retrouver libérées par les prisonniers qui, en 14 ans, sont devenus des grands sages, quoi. Et sont des gens qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont... Mais c'est un travail qui est universel, qui marche universellement, quoi. Ce truc de faire grandir les gens.
Ce qui est paradoxal, je trouve, en tout cas, c'est que dans les religions monothéistes, Dieu est le Père, dans les 3 grandes religions, et que finalement, ces religions-là ont quand même généré beaucoup, beaucoup de conflits liés au patriarcat.
Ouais.
Alors que ces personnes-là, à la base, cherchent le Père, effectivement, dans la croyance.
Parce qu'il n'est pas à la bonne place. Ouais. C'est pas dans l'ordre des choses, en fait. C'est tout simplement... Enfin, je pense. Hein. Là, c'est très, très beau, parce que dans ce film, tu vois ces cercles d'hommes. Donc, je sais pas, chaque cercle fait entre 20 et 30 personnes. Et en fait, ils forment tous un cercle de pères, les uns pour les autres. Ils jouent le rôle de la figure paternelle qui leur a manqué. Et bah, ils ont plus besoin de Dieu, hein. Parce que, voilà, ils l'ont trouvé en eux-mêmes, en fait. Mmh. Ils ont intégré leur père intérieur. Mais du coup... Tu vois, quand on parle de genre, etc., il y a quand même des choses sur lesquelles, voilà, c'est encore work in progress, mais où ce travail, par exemple, ne peut pas être fait sur un groupe mixte.
C'est intéressant. Et du coup, ça te fait plein de matière pour toi, Clémentine, quelque part.
Absolument.
Le père.
Absolument. j'en reçois de plus en plus, d'ailleurs.
Ah, c'est super.
C'est passionnant. Ouais. Mais, comme disait Maï tout à l'heure, l'accès est plus difficile. L'accès à l'émotion est beaucoup plus difficile.
Bien sûr.
Alors qu'ils sont déjà volontaires.
Ouais.
Ils sont volontaires, mais ils n'expriment pas du tout les mêmes choses. C'est fou. Alors qu'ils. Voilà, l'histoire est la même, mais. Non, l'accès est plus compliqué. Mais je ne m'avoue pas du tout vaincue.
Nous, on voit aussi, hein, pour, je sais pas, pour 50 mails reçus, il y en a 49 de nana et 1 de mec.
Bien sûr.
Et moi, c'est pareil, hein, il y a 13% d'hommes sur le compte.
Bah, si on commence par les podcasts, la consommation du podcast, c'est un truc genre 80% de nanas. Mais en fait, nous, on a tellement l'habitude de se raconter des histoires qu'on a envie d'en écouter. Et moi, je sais que mes copains, eux, me disent « Mais pourquoi t'écoutes des histoires de gens que tu ne connais pas ?»
C'est quoi, en fait, que je l'arrête.
C'est vrai que c'est très féminin.
Ouais, c'est très féminin.
Alors que les vieillards, justement, dans les tribus, sont...
je suis le seul ici à avoir plus d'hommes que de femmes qui m'écoutent.
Moi, j'ai 83% de femmes.
Moi, j'ai 2% d'hommes, je crois que je suis là.
Ah, sur Bliss
Nous, on a 10% de mecs, mais c'est pas beaucoup non plus, quoi.
Alors, nous, on est pour les femmes, on a des hommes, et du coup, on est hyper ravis. On va même faire... Je fais une petite pub, là, quand même, mais on va faire Cox.
Ah, mais je suis génial! Mais bravo!
Mais ouais, on va lancer Cox. Il y aura les deux. Il y aura les deux. Mais du coup, voilà.
Comme pour Vox.
On va essayer. En fait, on fait pour les pénis et les clitos. On est vraiment clito-pénis, puisqu'il y a aussi une question de genre et c'est toujours un peu compliqué d'être absolument neutre. Donc, Cox, ce sera pour les pénis. Mais en tout cas, on espère que des hommes vont se mettre à écouter ça aussi. Et...
génial.
Qu'on va les toucher.
C'est sûr.
Avec notre voix. Et nos mots.
Mais voilà, non, le vraiment, je pense que pour le coup.
Je vais immortaliser le message. Il faudra la photo de ses chaussettes pour illustrer ce podcast quand même.
Ça part dans tous les sens.
C'est n'importe quoi.
C'est un épisode de 4 heures.
Ouais.
Ça, on est à 66 minutes. On est pas mal.
Ouais,
et alors, du coup, le podcast s'appelle Vlan.
Ah oui.
Donc, je vais être hyper pénible parce que je vais vous demander à chacune et chacun de dire ce à quoi vous. Eh ben ouais, mais c'est ça, Vlan. Vlan, il n'y a pas de préparation.
J'ai besoin d'un troisième verre de rosé.
Tu vas nous demander ce que ça évoque pour nous, Vlan ?
Non, à quoi vous voulez ouvrir ou claquer la porte ?
Ah, à quoi je vais claquer la porte ?
Il y a encore quelqu'un qui arrive ?
Elle n'est pas huilée, ta porte.
Non, il y a un problème d'huile. Non, il n'y a personne qui rentre. Je commence par qui ? On commence par Mathieu ? Ah, ça, c'est dur, hein ?
Je dois passer devant tout le monde après tout ce que j'ai dit. Je vais ouvrir la porte et je vais passer devant. Voilà. À qui je vais claquer la porte ?
Ouvrir.
Ouvrir la porte. Ah ouais, ouvrir. Soit l'un, soit l'autre.
Mais aux femmes, non ? T'avais dit aux femmes, a priori.
Hein ? Tu veux ouvrir la porte ? Moi, je vais ouvrir la porte aux femmes. Venez écouter Génération Do It Yourself. Voilà, c'est super. J'ouvre ma porte. Voilà, et puis, je sais pas, je crois qu'on a un point commun parce que nous tous, on a cette chance d'avoir découvert ce petit univers du podcast qui est notre trip et on a ce petit coin de liberté chacun. Et moi, j'ai envie de fermer la porte au gros con.
Bah ouais.
Il y a des gens qui te font des tas de choses, qui veulent venir sur ton podcast, qui te demandent des choses, ou qui veulent machin, qui te font des commentaires sur ton truc. T'essayes de faire ton truc bien. Non, c'est important. Et je pense que non, je suis pas colère. Je pense que en fait, ce qui est génial,
exprime
c'est
tes
que
émotions.
T'as gagné. On a gagné ce petit coin de liberté qui est juste moi qui me rend heureux. Voilà.
Amen. Cool.
Céline ou Margot
comment... dans le sens des aiguilles d'une montre.
Ouais. Alors, faisons le sens des aiguilles d'une montre.
Ah non, bah du coup, c'est Margot.
Ah bah oui, je sais.
Ah oui.
Ah. Elle est contente, Margot. Ah.
Bah écoute, je vais continuer dans ta métaphore. Moi, j'aimerais bien qu'on tienne la porte aux femmes et aux hommes. Parce qu'en vrai, je vois pas pourquoi on tiendrait pas la porte à tout être humain qui essaye de rentrer, et si on est poli. Je me dis que si on apprenait ça, ce serait pas mal. Bon, ça n'a rien à voir avec le fait de fermer ta porte, Greg, hein, mais...
Non, mais t'as pas besoin de claquer la porte.
Ouais.
Moi, tu peux
l'ouvrir.
Angelo
T'es pas obligé de rester sur la porte.
C'est vrai.
Non.
Non, mais... je crois que je vais répondre à un truc très con, mais... laisser ouvert la porte à la vulnérabilité, tout bêtement... Mmh.
Pour tout le monde.
Juste pour moi.
J'ai envie de dire que, dans un premier temps, je voudrais
ouvrir la porte sur l'humanisme au-delà du féminisme et de voilà, je trouve ça hyper intéressant. Je suis très heureuse que tu le dises comme ça et que tu le vives comme ça. L'humanisme et au plaisir humain, parce que je vais rester quand même dans mon registre. voilà. Mais je pense que le plaisir, en vrai, le self-pleasure et le plaisir qu'on donne aux autres, etc., ça pourrait détendre un peu l'atmosphère. Et je crois, peut-être naïvement, que c'est la base de tout. Voilà. Donc, j'ouvre grand la porte. Au plaisir.
Et maintenant, on a Pauline qui va parler de plaisir.
Alors, Pauline.
Pauline qui nous a dit qu'elle n'avait pas de soutif encore.
Excuse-moi, maman.
Déjà, Pauline nous a dit qu'elle n'avait pas de soutif.
Dis donc, oui. Greg, ta mémoire est sélective. moi, mon podcast, c'est sur l'échec. Alors, moi, je vais ouvrir la porte. Pour moi, aux irrégularités, à ce que tu as dit, mais j'ai trouvé ça vraiment passionnant et j'ai envie de ce petit moment pour te le dire et te dire que dans ce que tu racontes, j'espère que les hommes qui vont t'écouter vont tenter des choses, peut-être rater, mais c'est pas grave parce que non, tant qu'on tente, on fait forcément avancer les choses et on ouvre le dialogue. Donc voilà. T'es déçue, non?
Non.
Moi, je suis déçue. Du soutien-gorge, non?
Ah non, non, je me suis dit, t'allais t'approcher, nous parler à l'oreille. Mais non.
T'aurais pu essayer. Je te montre comment faire.
Tu veux que je parle comme ça?
J'aime bien. J'aime bien quand tu me parles comme ça.
Tous parler comme ça.
Céline?
Ouais. Non, alors du coup, je sais pas. Non, je suis pas hors sujet, mais moi, j'aimerais bien ouvrir la porte à moins de gêne, à plus de parole. C'est-à-dire que je me rends compte, même aujourd'hui, hein, que la parole est beaucoup plus libérée, etc. Je me retrouve souvent à des soirées, à des dîners, à des verres autour d'une table comme ça, où on se met à parler. Du coup, le podcast qu'on a avec Margot vient souvent sur le tapis. Donc, on se met rapidement à parler de sujets qui fâchent, comme les viols, les violences conjugales, machin. Mais alors, les gens, ils n'ont pas du tout envie d'en parler. Hein. Ils sont là, genre... Oh, là, non, ils sont ultra gênés... et c'est vraiment, ce sont des gros mots, quoi.
Ouais, c'est dramatique.
Ouais, et ça m'emmerde un peu. Et du coup, je crois que j'aimerais bien que ce soit des sujets dont on puisse parler beaucoup plus librement sans que ce soit. Enfin, ce sont des sujets graves. J'aimerais bien qu'on puisse en parler, pas avec plus de légèreté, mais de façon plus naturelle, en fait. Sans que ça fasse peser un poids énorme sur l'assemblée dès que le truc est amené. Voilà.
C'est lancé.
Là, par exemple, il n'y a pas de poids du tout là-bas.
Non, moi, je me sens. Je me sens hyper léger.
On ouvre la porte.
On a envie d'y aller. Hein. C'est un marché. Ta porte que tu marches. Je vais la tenir d'ailleurs.
Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je imagine au dîner. Tu veux de la tarte?
Je vis la même chose quand j'essaie de parler bitcoin.
Chef de plongeur bitcoin. Il y a pas mal de fois où le truc a été amené de façon assez. De façon assez naturelle et bienveillante, et les gens se confient, et je pense que c'est dans ce moment-là que les. Pardon, moi, je sais que quand je raconte mon histoire, il y a plein d'années derrière qui vont me dire « Ah ben, moi aussi, cela. » Enfin, quand t'es dans un cadre qui est hyper bienveillant, la parole se libère et les gens, c'est ce qu'on fait aussi avec Entre nos lèvres, tu vois. Mais c'est un truc qu'on arrive à faire dans le podcast, mais que
dans la vraie vie,
on n'arrive pas à le...
Un pas après l'autre.
Dans la vie,
c'est plus facile avec les femmes, généralement.
Non, mais un pas après l'autre. Après, on est quand même. Enfin, je sais pas si vous voyez le parcours qu'on a fait là. Moi, c'est ouf, quoi.
Ça va donc, vite.
Un pas après l'autre. Mais ce qui est vrai, c'est que. Comme nous, on est initiateur de toutes ces discussions, on est parfois un peu impatient, mais. Avec David.
Regardez là d'où vient ce pauvre Mathieu.
Je sais pas si t'as vu Mathieu, mais.
Non, mais par contre, en parlant d'où on vient, enfin, je voudrais juste en parlant d'où on vient, je pense que justement, il y a une question aussi où maintenant il y a des nouvelles générations. Et nous, on a appris que tous les sentiments douloureux, les ressentis douloureux, on n'a pas envie de les vivre et c'est mal de les vivre. Et du coup, je pense que ça vient de là aussi la gêne, c'est-à-dire qu'on a tellement appris que tu pleures, faut pas pleurer, ça va aller, etc. C'est douloureux, faut l'éviter. C'est l'évitement en fait, quand les gens ils se disent non, vas-y, on va pas sur ce terrain-là. Et j'espère que les prochaines générations, on réussira à leur dire t'as envie de pleurer, vas-y, pleure, c'est pas grave, c'est pas grave d'avoir mal, c'est pas grave que ce soit. C'est gênant, on entend quoi. Là, c'est pas grave.
Pour compléter cette réflexion, sur le compte, je vois qu'il y a autant de personnes qui ont peur de. dire des choses négatives ou exprimer des émotions négatives que de dire je t'aime à leurs parents, je t'aime à leur mec ou à leur maman. C'est pas que des trucs négatifs, en plus c'est vraiment parler de soi, quoi.
Mais c'est ce que tu disais sur la vulnérabilité.
Faudrait qu'on puisse répondre. Tu sais, quand tu dis ça va, t'as pas du tout envie que l'autre te réponde non, ça va pas. Ah merde.
Oui, parce que t'as l'impression.
Tu veux de la tarte?
Mais parce que t'as l'impression que tu dois lui apporter une réponse, alors qu'en fait, la personne a juste envie que tu l'entendes.
D'empathie.
Elle a juste envie que tu l'entendes. T'es pas nécessairement la réponse. Parce qu'en fait, il n'y a pas forcément de réponse nécessaire.
Eh ben non.
Souvent, et puis c'est beaucoup d'honneur quand on confie ça. Ça veut dire que tu es digne de recevoir des informations un peu négatives aussi. C'est vrai. Moi, j'aime bien quand on me dit « Bah non, tu sais, ça va pas très bien. »
Bah ouais, non, c'est plutôt bon.
J'aime bien.
Le courrier des cœurs.
Non, mais ça veut dire qu'il y a une possibilité de dialogue différente.
Et plus honnête.
Moins superficielle. Et ça change. Et,
Et justement, Clémentine, à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte?
Alors, écoutez,
est-ce que ça va, Clémentine, déjà?
Comment tu vas?
Oui, aujourd'hui, ça va. Hier, je t'aurais peut-être pas dit la même chose, tu vois. Et demain, je sais. Alors, moi, j'aimerais ouvrir la porte pour rester dans mon sujet de... Voilà, et en tout cas, des témoignages que j'entends le plus, qui sont autour de la naissance et de la grossesse et de l'accouchement et de ces histoires de parentalité. J'aimerais ouvrir la porte à plus de parentalité, justement, et à une multiplicité de façons de devenir parent, de nouvelles options, en tout cas, se démocratisent et soient plus normales. J'ai un épisode, là, bientôt, où j'ai interrogé un couple d'hommes qui ont fait donc une GPA à l'étranger et voilà, et quand ils m'en parlent, j'ai encore l'impression qu'on est loin de l'acceptation qu'on devrait avoir. Donc voilà, j'aimerais ouvrir la porte à ça, à plus de normalisation de ces nouvelles parentalités qui sont pas si nouvelles que ça, mais heureusement on en parle de plus en plus.
Elles sont plus visibles,
en fait. C'est ça. Ils s'autorisent à l'être de plus en plus, heureusement, mais c'est pas encore ça, quoi.
Non.
Voilà, donc il faut ouvrir encore plein de portes à ce niveau-là.
Hein. Ouvrir toutes les portes.
Non, on a tous ouvert des portes, presque.
J'ai pensé, mais attends, moi j'étais le premier, c'était compliqué. C'était quand même très compliqué. Mais bon, attends, c'est quand même. Tu veux claquer une porte? Non, mais en plus, j'en ouvre plein, je passe ma vie à faire ça. Et en plus, tu sais quoi? Il fallait bien que j'en ferme une fois. Je me disais quand même que. Et c'est vrai, tout ce que vous avez dit et ce que tu disais sur le fait de. Ces côtés un peu lourds dans les discussions. Et à la fois, je me disais en t'écoutant, Céline, que le côté lourd, moi, je ne l'aime pas trop naturellement, en vrai. Mais pourtant, dans mon podcast, je vais le chercher. Je cherche pas à relier ça. Excusez-moi cette promo, mais je vais le chercher sur le. En fait, j'aime bien toucher le moment où des gens qui ont eu des grands succès ont vraiment touché le fond et savoir quel est ce moment où ils ont touché le fond, comment ils l'ont vécu, etc., etc. Je pense qu'en fait, oui, c'est hyper intéressant et être que sur cette espèce de nuage, tu vois, de gens qui réussissent et ne parler que de cette réussite et de ce bonheur et de tout ça. En fait, c'est complètement idiot. Mais si je peux me permettre, puisque j'ai été piégé tout à l'heure et qu'on est à la centième, Greg,
vas-y.
À quoi tu ouvres la porte ou tu la fermerais, puisque ton podcast s'appelle Vlan.
Attends, mais faut qu'on pose la question à Maï.
Non, vas-y, je veux pas que t'aies le temps de réfléchir dans ma piégée. À toi.
Je pense que sur le sujet, parce que sinon je peux ouvrir la porte et claquer la porte à beaucoup beaucoup de choses. Mon sujet du moment, en tout cas, c'est la spiritualité et l'écologie, ou en tout cas, comment en développant le féminin chez tout le monde et pas que et pas à développer les femmes. J'aime pas trop cette guerre, ce dont tu parlais, cette guerre des femmes contre les hommes. Je suis pas du tout sûr que on sera the future is female, tu vois. Moi, je pense que le futur il est féminin chez tout le monde. Et en faisant ça, c'est un des éléments, parce qu'on parle effectivement, alors on n'a pas parlé d'écoféminisme là, parce qu'on a déjà fait pas mal de temps, mais c'est un autre sujet, mais c'est vrai que il y a quand même ce lien, et tu disais par rapport au capitalisme, je crois, de respect de la terre, et tout ce changement de spiritualité sociétale est en train d'arriver, le développement du féminin chez tout le monde participe largement à ça, donc j'ai envie d'ouvrir la porte au développement du féminin dans chacun. Voilà. T'as vu ? Tac-tac ! Du tac au tac.
Bien vu.
Maï ?
Ah bah du coup, moi je vais ouvrir la porte à la masculinité, différentes masculinités. Il y a du masculin en chacun de nous. Il est aujourd'hui hyper développé parce qu'on est tous en mode projet, on a tous des projets, on est en mode mission, il faut remplir notre mission, etc. Mais en fait, si on éduque et si on potentialise cette énergie-là, on peut faire des choses absolument incroyables. Et si ce masculin est mis au service du féminin, au service de la nature, et pour mettre à bas le capitalisme, allons-y, quoi. Du coup, c'est une sorte de... On est peut-être à l'aube d'une révolution incroyable.
On est dedans, je crois. Allez. C'est même pas qu'on est à l'aube, je crois qu'on a commencé, en fait.
Oui, y a quelque chose qui est nécessairement en marche, et voilà.
Macron, si tu nous écoutes.
Oh non. Merde. Donc, qui n'est pas du tout la France start-up, et qui, je pense, qui est spirituel et politique et qui va faire un carton.
Ouais. C'est le moment de remercier, je crois. En fait, je voudrais remercier déjà vous tous et vous toutes d'avoir participé à ce podcast un peu exceptionnel. Je voudrais surtout remercier les auditeurs et les auditrices. Qui nous écoute depuis une heure et demie maintenant, quasiment, en train de parler. Moi, je fais des épisodes de 30 minutes, donc ils vont être ravis.
les deux écouteurs qui écoutent encore.
Mais merci. Non, c'est un podcast...
Je pense qu'on les a perdus pendant la blague d'Adam Smith.
Ils se sont poussés par la main. Vas-y, dégage.
Non, c'est comme disait Mathieu tout à l'heure en parlant des podcasts, c'est un espace de liberté. Je trouve ça génial de pouvoir le faire. Et on le fait parce que vous existez, en fait, parce qu'on nous écoute aussi quelque part. Donc merci à toutes et à tous. Voilà.
Merci.
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 Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.
Mais c'est incroyable.
Des bisous avec mes chaussettes.
Ça, c'est mon pied droit.
Non.
Et ça, c'est le gauche.
C'est incroyable.
Je suis très souple.
Cool. Merci.
Merci.